France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Des explosions à Téhéran après de nouvelles attaques israéliennes contre les villes israéliennes de Tel Aviv et Haïfa. Sandrine Etoa Andeg a joint des habitants de la capitale iranienne. Tension entre Israël et la France au sujet des stands israéliens au salon du Bourget. 4 stands présentant des armes offensives ont été fermés sur décision du gouvernement. Hakim Kasmi est sur place pour France Culture. À la veille de la conclusion prévue du conclave sur les retraites, François Bayrou défend une prime pour maintenir les seniors dans l'emploi. Nous verrons avec Wafia Kenich en quoi consiste cette proposition. Et puis nous irons aux États-Unis. Alors que Donald Trump ordonne de nouvelles opérations anti-migrants, nous nous pencherons sur le coût considérable de la police fédérale de l'immigration. Au 4e jour de la guerre ouverte entre Israël et l'Iran, de fortes explosions ont été entendues cet après-midi dans plusieurs secteurs de Téhéran. La capitale iranienne est de nouveau la cible d'une attaque israélienne qui a été précédée d'un appel à évacuer une zone du nord-est de Téhéran. L'armée israélienne dit cibler les infrastructures militaires ainsi que la radio-télévision d'État iranienne qualifiée de porte-voix de la propagande. Mais selon le ministère de la Santé iranien, 90% des victimes recensées depuis vendredi sont des civils. Sandrine Etoa Andeg a recueilli les témoignages d'habitants de la capitale.
Voilà ce que cet habitant de Téhéran entend depuis chez lui. Les bombardements sont horribles. Personne n'est à l'abri, confie ce trentenaire qui préfère rester anonyme. C'est-à-dire que seules les infrastructures militaires sont visées et les civils épargnés, c'est faux. C'est toute la population iranienne qui est attaquée. Il décrit une ambiance de panique généralisée, à la queue devant certains commerces, devant des épiceries ou des boulangeries. Les gens font des stocks. Il n'y a pas de pénurie pour l'instant, mais jusqu'à quand ? Il parle aussi des embouteillages monstres à la sortie de la ville. L'aéroport étant fermé, il y en a qui tentent d'aller en Turquie en voiture ou de se réfugier dans des villages alentours. Le gouvernement a annoncé que les mosquées, les stations de métro et les écoles allaient servir d'abri anti-aérien. Si les choses empirent, on peut peut-être survivre dans le métro. Mais les écoles, ce sont de simples bâtiments, ça n'offre aucune garantie, déplore Armin, qui habite aussi Téhéran. L'étudiant dit surtout se méfier de la communication officielle. Et quand vous ne croyez pas les autorités, vous allez sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'informations anxiogènes et pas fiables, ce qui fait, conclut-il, que nous sommes encore plus effrayés par la situation.
Témoignage d'habitants de Téhéran recueilli par Sandrine Etoa Andeg. L'Iran aussi a mené des frappes aériennes aujourd'hui près de Tel Aviv et à Haïfa. L'histoire dira si cette opération privera ou non l'Iran de sa capacité à se doter de l'arme nucléaire, comme l'espère le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fera date pour le Mossad. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir.
Le service de renseignement extérieur israélien a méthodiquement planifié ses attaques depuis des mois, voire des années.
Oui, selon les médias israéliens, il a fallu entre 8 mois et 2 ans pour préparer cette opération. Mais en réalité, ces attaques se sont appuyées sur des années de planification, de surveillance et surtout d'infiltration secrète au sein même du pouvoir iranien. Selon les spécialistes, que ce soit en Israël ou en Iran, des centaines d'agents du Mossad ont été impliqués, y compris une unité spéciale d'opérateurs iraniens travaillant pour le Mossad. Israël a livré quelques détails sur la chaîne américaine Fox News, expliquant que ces services ont réussi à faire entrer des armes sur le sol iranien, placées tout près de lanceurs de missiles sol-air, parfois même cachés, je cite, dans des rochers. Des drones également ont été placés dans des endroits stratégiques. Autre réussite du Mossad, avoir frappé en un seul et même endroit plusieurs hauts gradés de l'armée de l'air iranienne, une précision chirurgicale au nez et à la barbe des services du contre-espionnage iranien. Ce qui fait dire à l'état-major israélien que cette opération est, je cite, son plus grand succès dans la collaboration entre les services de renseignement et l'armée de toute l'histoire d'Israël.
Virginie Pironon, Téhéran demande au Qatar, à l'Arabie Saoudite et à Oman d'intervenir auprès du président américain pour qu'il use de son influence auprès d'Israël en vue d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. En échange, l'Iran propose de faire preuve de souplesse dans ses négociations avec les États-Unis concernant son programme nucléaire. De son côté, la Russie se dit prête à jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Aurélie.
Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et les deux présidents appellent ensemble à une cessation immédiate des hostilités.
Oui, le Kremlin qui tente de se positionner rien moins qu'en faiseur de paix dans ce conflit, et Vladimir Poutine qui condamne avec Recep Tayyip Erdogan les frappes israéliennes contre l'Iran menées, dit le Kremlin, en violation de la Charte des Nations Unies, qui a rappelé ce matin également que la Russie voulait bien offrir ses services de médiateur, un rôle qui paraît tout de même compliqué à assumer pour la Russie, qui s'est énormément rapprochée de Téhéran ces trois dernières années et dans le même temps a vu sa relation avec Israël se tendre, mais l'essentiel est peut-être ailleurs pour Moscou, qui peut aussi certainement profiter du potentiel de diversion que présente cet embrasement au Moyen-Orient. Quand la communauté mondiale a les yeux rivés sur l'Iran, elle ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Donald Trump a dit d'ailleurs que lors de son coup de fil samedi avec Vladimir Poutine, il avait été bien plus question de l'Iran que de l'Ukraine. La guerre Israël-Iran qui pourrait même avoir un autre effet d'aubaine pour la Russie en faisant flamber les cours du pétrole quand Moscou compte toujours essentiellement sur ses exportations d'hydrocarbures pour financer sa guerre en Ukraine.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Selon les déclarations du Premier ministre britannique Keir Starmer, les dirigeants du G7 réunis au Canada souhaitent tous appeler à la désescalade entre Israël et l'Iran. Israël qui fait part à la France de son mécontentement après la fermeture de 4 stands israéliens au Salon du Bourget qui a ouvert aujourd'hui. C'est le gouvernement français qui a fait fermer ces stands installés au Salon de l'Aéronautique et de la Défense à Kim Kasmi au motif qu'ils exposaient des armes offensives.
Les 4 entreprises concernées, dont Elbit Systems, la plus grande entreprise d'armement en Israël, n'a pas caché son mécontentement en estimant que la décision avait été prise de manière unilatérale et qu'elle avait surtout pour objectif de ne pas faire d'ombre aux entreprises françaises. Ce que dément François Bayrou, qui rappelle que les règles avaient été fixées dès le départ, aucune arme offensive ne devait être exposée sur le Salon du Bourget.
La position du gouvernement français était très simple, c'était pas d'armement de guerre offensif sur le salon. On s'était accordé avec les autorités diplomatiques et israéliennes, avec l'ambassade. En tout cas, c'est ce que tout le monde pensait. Apparemment, ça n'a pas été le cas pour toutes les entreprises. Un certain nombre des entreprises ont suivi cet accord et une autre partie n'a pas suivi. On a donc dit que, évidemment, il fallait qu'on prenne le temps de s'accorder et qu'on ne laisserait pas l'exposition d'armement offensif.
Le gouvernement français qui justifie également sa décision par sa désapprobation à l'égard de la politique menée par Israël à Gaza.
La situation à Gaza est une situation qui, pour la République française, est une situation devant laquelle nous voulons absolument marquer réprobation et distance. On ne peut pas affamer un peuple, on ne peut pas faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir accès à l'aide humanitaire. On ne peut pas faire en sorte qu'il soit isolé de tout sans que les valeurs qui nous font vivre s'expriment. Et c'est ce que nous avons fait dans cette décision.
En attendant, les autorités françaises et israéliennes sont donc pour parler afin de trouver une solution d'ici la fin du salon.
Hakim Kasmi avec les moyens techniques de Sandrine Malon au Salon du Bourget, salon où Airbus annonce avoir engrangé 105 commandes fermes, dont 25 gros porteurs A350 de la compagnie saoudienne Riyad Air. Son rival Boeing, lui, s'est fait discret. L'avionneur américain a décidé de réduire ses activités au Bourget après le crash d'un 787 d'Air India qui a fait au moins 279 morts la semaine dernière. Aux États-Unis, des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end contre la politique migratoire de Donald Trump, ce qui n'a en rien affaibli sa détermination à faire expulser les immigrés clandestins. 3000 arrestations par jour de migrants en situation irrégulière, c'est l'objectif fixé à l'ICE, la police de l'immigration, que le président a même appelé ces dernières heures à intensifier ses opérations à Los Angeles, Chicago, New York, qui sont selon lui le noyau central du pouvoir démocrate. Le projet est ambitieux, encore faut-il pouvoir le financer et cela devient un problème. Bonsoir Benjamin Hilly.
Bonsoir.
Selon le site d'information américain Axios, Benjamin, cette agence chargée d'arrêter, de détenir et d'expulser les immigrés sans papier sera à court d'argent le mois prochain si le rythme de ses opérations reste le même.
Oui, avec un dépassement $1 milliard, 3 mois avant la fin de l'exercice budgétaire, le département de la sécurité intérieure a déjà mis la main à la poche. $500 millions ont été alloués à l'ICE, qui avait alerté dès le printemps qu'il lui fallait au moins 2 milliards supplémentaires pour répondre aux besoins d'ici fin septembre. Il devient d'autant plus urgent pour Donald Trump de faire passer son méga projet de loi budgétaire au Congrès, cette grande et belle loi, comme il aime l'appeler, qui doit accorder une rallonge massive de 75 milliards à la police de l'immigration pour les 5 prochaines années. Mais si les débats s'enlisent au Sénat, il reste la possibilité au président américain de déclarer l'état d'urgence. Il pourrait alors prendre l'argent au sein d'autres départements fédéraux pour le rediriger vers l'ICE, qui jouit du soutien indéfectible de Donald Trump. Ce dernier l'a écrit sur son réseau social, un long message, mais une mission très claire qu'il résume en trois mots. Faites le boulot.
Benjamin Illy. Les autorités allemandes annoncent le démantèlement d'une des plus anciennes plateformes de vente de drogue du Darknet. L'action coordonnée de 6 pays européens a mené à la chute de cette plateforme, particulièrement présente en Allemagne. Elle était en service depuis plus de 5 ans et organisait le trafic de divers stupéfiants, cannabis, amphétamines, héroïne, etc. avec des transactions uniquement en crypto-monnaie pour un chiffre d'affaires total d'au moins 250 millions d'euros. Alors que le conclave sur les retraites doit rendre ses conclusions demain, François Bayrou dit avoir proposé aux syndicats et aux patronats l'idée d'une prime pour les salariés seniors qui décident de rester au travail. Bonsoir Wafia Kenny.
Bonsoir Aurélie.
Alors en quoi consiste cette prime senior proposée par le Premier ministre ?
Alors du côté de Matignon, la réponse est évasive finalement. Il ne s'agit pas d'une prime, contrairement à ce qu'a d'abord déclaré le Premier ministre, mais d'un dispositif pour inciter les salariés à rester en activité, même s'ils sont en droit de prendre leur retraite. Exemple, pour une personne payée 4000 euros à son arrivée à l'âge légal de départ, et si elle a cumulé tous ses trimestres, eh bien, ce salarié, s'il continue à travailler, percevra toujours le même salaire, mais 3000 euros seront payés par l'employeur et 1000 euros par une subvention publique. Matignon donne cet exemple sans pour autant donner plus de détails en particulier. Les services du Premier ministre n'expliquent pas comment l'État compte financer cette nouvelle aide. Ce que l'on comprend, c'est que le Premier ministre souhaite maintenir les seniors en emploi au-delà de 64 ans pour faire en sorte qu'ils cotisent plus longtemps pour remplir les caisses du régime. Remplir d'un côté, mais creuser le déficit de l'autre. Combien va coûter cette nouvelle exonération patronale ? À quelle hauteur sera-t-elle versée ? À partir de quel niveau de rémunération ? Quid des autres exonérations patronales ? Beaucoup d'interrogations sur ce dispositif. Par ailleurs, il ne résout pas le problème majeur de l'emploi des seniors. Pour travailler au-delà de 64 ans, encore faut-il qu'ils soient en emploi à cet âge-là. Ce qui augmente le plus depuis les dernières réformes des retraites, c'est le nombre de personnes qui ne sont ni en emploi, ni en retraite. Des seniors éloignés de l'emploi, bien avant d'avoir atteint les 64 ans.
Wafia Kenish. Après 3 tentatives, en juin et décembre 2024, puis en avril dernier, la réforme de l'audiovisuel public portée par Rachida Dati revient à l'Assemblée nationale. Le texte sera débattu à partir de demain matin en commission des affaires culturelles et jusqu'à jeudi dans la nuit si nécessaire. Et pour lever les oppositions, la ministre de la Culture s'appuie sur un rapport. Bonsoir Éric Chavroux.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Un rapport commandé en mars dernier à Laurence Bloch et remis aujourd'hui aux parlementaires.
Un texte de 37 pages avec ses annexes, dans lequel, d'entrée, l'ancienne directrice des antennes de Radio France salue les réussites incontestables de France Télévisions, de Radio France et de l'INA. Mais, selon elle, se satisfaire d'un statu quo ferait courir un risque existentiel à l'audiovisuel public en raison de défis comme la concentration des médias ou les évolutions technologiques. Épaulée par un inspecteur des finances et un maître des requêtes au Conseil d'État, et après avoir rencontré des professionnels et des élus, Laurence Bloch avance donc 8 propositions, à commencer par la création d'une holding, France Média, qui permettrait de mieux arbitrer, selon elle, les ressources de chaque entreprise, d'accélérer leur virage numérique et de lutter contre la désinformation, avec 5 filiales pour autant de plateformes, l'INA, France TV, Radio France, France Info et ICI. France Info et ICI, union récente de France Bleu et de France 3, serait donc distinguée de Radio France. La mise en place d'une gouvernance unique est vantée pour acter les coopérations entre Radio France et France Télévisions, considérées comme ratées ou trop lentes, comme pour France Info, qui devra, selon ce texte, unir ses équipes télé, web et radio dans un même lieu. L'information, priorité première, avec un directeur de l'information qui serait placé sous la responsabilité directe du PDG de France Média.
Des changements majeurs, reconnaît le texte, qui rimerait, Eric, avec mutualisation et concentration.
Une mutualisation des investissements dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, accompagnée d'évolutions professionnelles croisées entre les filiales, à la condition, et c'est la dernière proposition de Laurence Bloch, d'un cadre budgétaire stable et pérenne garanti. Le coût de cette holding, justement, serait minime, selon elle, allégée à terme par la concentration de certaines fonctions. Et ce, même si l'alignement des statuts des salariés, qui prendra à minima 27 mois de négociation, est-il indiqué, a été chiffré à 30 millions d'euros par l'Inspection générale des finances.
Merci Eric Chavroux. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov est finalement maintenu pour les travaux isolés. Le guichet des monogestes ne fermera finalement pas pour l'été, annonce l'entourage de la ministre chargée du logement, Valérie Létard. Cette décision a été prise par le gouvernement suite à l'écoute de la filière qui avait manifesté un fort mécontentement, indique le cabinet de la ministre. Le procès Adecco s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il va durer 2 semaines. 14 prévenus sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée. On leur reproche d'avoir piraté les données de 76 000 intérimaires du groupe. Il y a quelques 2400 parties civiles et 362 avocats, Christophe Vincent.
Ils sont jeunes, les uns en chemise et veste, d'autres en t-shirt, cheveux bouclés et queue de cheval. Seul détenu depuis 2 ans, le cerveau sait qu'il risque une lourde peine. Je veux tourner la page, j'étais immature. Même défense du stagiaire Adecco qui a vendu les données et les mots de passe, son avocate Karine Monza.
Il est sur des jeux en ligne et ces personnes savent qu'il travaille chez Adecco. Et on va lui dire, bah écoute, tiens, tu peux te faire de l'argent facilement. 19 ans, là, pas du gain, je sais pas. C'est compliqué hein, à expliquer, même lui, encore aujourd'hui. Et Dieu sait s'il y réfléchit depuis 3 ans. C'est quelque part grâce à lui que tous les autres ont été identifiés. Je tiens à le rappeler quand même.
Certaines victimes ont perdu 49,50 €, d'autres beaucoup plus. Mouna Taoufik défend un couple de retraités.
Le préjudice de mes clients se monte à peu près à 25 000 €. La femme du couple était intérimaire chez Adecco. C'est facile de se faire passer pour la banque et une fois que vous avez les codes d'accès, de procéder au virement vers des comptes en France et puis après vers l'étranger. Ils ont l'impression d'avoir été dupés, de ne pas avoir été à la hauteur. Les pistes sont des économies d'une vie. Le mari du couple est retraité, madame travaille toujours, donc c'est pas anodin.
Les auteurs encourent jusqu'à 10 ans de prison.
Le planning familial redoute la fermeture de certains de ses centres de santé sexuelle. Partout en France, il fournit des informations sur la sexualité, la contraception, l'avortement. Il propose des consultations médicales et pratique une petite part des IVG médicamenteuses. Mais le planning, qui regroupe 82 associations, constate la baisse et des baisses et des coupes budgétaires sur tout le territoire, Solène Lehen.
Moins 10% de subventions annoncées dans le département du Loiret ou encore moins 20% dans la Drôme cette année. Dans la Drôme, le conseil départemental, c'était le principal financeur de l'association. Le planning familial va devoir y fermer 7 centres de santé sexuelle, explique Sarah Bloch, l'une de ses sages-femmes.
Ce sont des centres qui sont en milieu ruraux. Ça signifie que les personnes mineures, les personnes non véhiculées vont devoir faire 1h40 de transport en commun ou bien aller en stop éventuellement à leur centre de santé sexuelle pour un avortement. Pour une demande de contraception.
Le contexte économique difficile en France n'explique pas tout. Ces baisses de subventions, selon Sarah Durocher, la présidente du planning familial, c'est aussi une attaque politique contre l'association.
Le planning familial a eu pas mal de menaces de baisse de financement depuis presque 2 ans maintenant, avec la montée de l'extrême droite à l'Assemblée nationale et de manière plus générale au niveau des territoires. On passe de la menace à l'action et bien évidemment que c'est des décisions politiques.
Le planning familial a décidé de lancer une collecte de dons et sur les réseaux sociaux un hashtag, un mot dièse « Je soutiens le planning ».
La ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, réagit. Elle regrette vivement que certaines collectivités locales aient fait le choix de réduire, voire de stopper leur soutien au planning familial. Et puis cette révélation de la cellule investigation de Radio France, un nouvel accident mortel lié à un airbag défectueux sur une Citroën C3 a eu lieu à Reims, dans la Marne. C'était le mercredi 11 juin. Une mère de famille est morte après un accident sur la voie rapide qui traverse la ville. Une mineure de 14 ans se trouvait également à bord et a été blessée. Il s'agit du 2e accident mortel recensé en métropole, alors qu'il y en a déjà eu 17 en Outre-mer depuis 2016. La météo, la journée de mardi sera très ensoleillée. Quelques ondées pourront toucher les crêtes frontalières des Alpes du Sud. Les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 10 et 14 degrés, entre 18 et 22 sur le littoral méditerranéen. Et puis l'après-midi, il fera 19 à 22 le long de la Manche, autour de 30 en Île-de-France et jusqu'à 32, voire 34 en Languedoc-Roussillon.